Bonjour à chacun et à chacune. J'ai le plaisir ce matin de vous accueillir pour ce temps de culte et de souhaiter aussi une bienvenue particulière à nos amis de la paroisse protestante de Mérin qui nous ont rejoints à l'occasion de ces cultes d'été en commun que nous célébrons alternativement une fois au centre paroissial œcuménique de Mérin et une fois ici dans les locaux de l'église évangélique. Bienvenue. Je salue aussi également la présence parmi nous de Jean-Daniel Schneeberger ainsi que de son épouse Elisabeth. Jean-Daniel est pasteur à la paroisse d'Aïr-le-Lignon, une paroisse qui fait également partie de la région Rhône-Mondement et il nous apportera tout à l'heure la prédication. Soyez les bienvenus. Je profite aussi de saluer et d'accueillir Marguerite Félix parmi nous, elle est là, voilà. Marguerite est à la résidence du Jura depuis quelque temps et aujourd'hui elle peut nous rejoindre. Alors bienvenue, nous sommes heureux de pouvoir t'accueillir au milieu de nous ce matin. Le thème abordé tout au long de ces cultes d'été est un thème d'actualité cette année puisque nous allons parler de la réforme, cette réforme dont nous fêtons le 500e anniversaire. Redécouvrir la réforme pour nous aujourd'hui. Et ce matin, Jean-Daniel aura la tâche de nous éclairer plus particulièrement sur la notion de sacerdoce universel mise en avant par Luther. En effet, celui-ci s'est battu contre cette position privilégiée que s'était arrogé le clergé en son temps, en tant que seul intermédiaire entre Dieu et les hommes. Et en préparant ce culte, j'ai pensé à deux choses que j'aimerais vous partager. Alors tout d'abord, si vous êtes d'humeur, une petite histoire drôle. Celle de ces trois voisines qui prennent le café et qui discutent de la chose qui compte le plus à leurs yeux, c'est-à-dire la réussite respective de leur fils. « Moi, mon fils, dit la première, il est prêtre. » En s'adressant à lui, tout le monde dit « mon père ». Ah, surenchérit la deuxième, c'est pas mal. Le mien est évêque. En s'adressant à lui, tout le monde dit « monseigneur ». Leurs yeux se tournent alors vers la troisième qui sirote son café en silence et presque de concert, elle s'inquiète. Et vous, ma chère, comment s'adresse-t-on à votre fils ? Le mien ? Il est basketteur. Il mesure 2 mètres pour plus de 100 kilos de muscles. Et les gens qui le croient s'exclament « Oh mon Dieu !» Voilà, ces mamans qui sont fières de leur fils. Et c'est justement la deuxième chose à laquelle j'ai pensé, à ces mamans qui sont fières de leur fils, à cette histoire bien connue dans les évangiles de la mère des fils de Zébédée. Une mère qui, elle non plus, ne manquait pas d'ambition pour ses fils, puisque vous le savez, elle n'a pas hésité à demander pour eux les 2 places d'honneur à côté du trône de Jésus, l'un à sa gauche, l'autre à sa droite. Et de manière plutôt surprenante, Jésus ne va pas s'offusquer de cette demande, contrairement aux disciples d'ailleurs. Il ne va pas mépriser l'ambition de cette mère. Il va rappeler simplement que celui qui veut être grand dans son royaume doit d'abord être un serviteur. Mais plus tard, Jésus dira, et là à l'intention de tous les disciples, il dira ceci, « Lorsque je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que vous soyez vous aussi là où je suis. » Être là où Jésus est. Voilà la place privilégiée à laquelle nous pouvons tous légitimement aspirer en tant que disciples. Être dans la présence du Christ, aujourd'hui déjà. Voilà ce à quoi nous pouvons goûter ce matin par l'action de l'Esprit-Saint. Car Jésus nous dit bien, « Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Alors je vous invite ce matin à ouvrir nos cœurs à la présence de Dieu et à nous réjouir ensemble de ce que le Christ est au milieu de nous, dans nos louanges. Mais avant de prier pour remettre ce culte à Dieu, j'aimerais encore et je dois vous annoncer que notre frère Pierre Girardet s'en est allé rejoindre son Père Céleste. Il s'est effectivement endormi paisiblement la nuit du 15 au 16 juillet à son domicile dans sa 92e année et l'ensevelissement a eu lieu jeudi passé. Être là où Jésus est, cette pensée justement nous réconforte en pensant à M. Girardet, alors que nous exprimons nos plus sincères condoléances et notre plus grande sympathie à toute sa famille. Et je pense à Samuel et Déborah, à son frère et sa belle-sœur, à Nicole et Denis, à son fils et sa belle-fille. Voilà, je vous invite à prier. Béni sois-tu, Père Céleste, toi qui nous accueilles ce matin dans ta maison. Donne-nous d'ouvrir nos cœurs à ta présence. Béni sois-tu, Dieu vivant, car tu es celui qui nous appelle à la vie, à une vie qui porte du fruit en abondance, à une vie dans ta présence pour l'éternité. Renouvelle notre foi et notre espérance ce matin. Béni sois-tu, Seigneur, tu es celui qui pourvoit à tous nos besoins. Donne-nous de savoir goûter à ton repos. Béni sois-tu, Père miséricordieux, car tu es celui qui pardonne et nous relève quand nous trébuchons. Donne-nous de savoir nous repentir. Merci pour tous ceux qui sont dans la joie ce matin et merci de prendre soin de ceux qui sont dans la peine ou qui sont fatigués. Merci pour ta grâce pour chacun d'entre nous. Nous te bénissons. Amen. Nous voulons entrer dans un temps de louange et bénir ce Dieu si majestueux. Merci au groupe de louange.
Bonjour à tous. On est tous invités ce matin. Invités. Bah oui, on est invité à louer le Seigneur, à nous approcher de notre Dieu, à déposer nos soucis, on a déjà évoqué. Et avec le psaume 145, je vous invite à entrer dans ce temps de reconnaissance et d'adoration. Je vous lis quelques versets du psaume 145. Je proclamerai ta grandeur, mon Dieu, mon roi, et je bénirai ton nom pour toujours et à perpétuité. Chaque jour, je te bénirai et je célébrerai ton nom pour toujours et à perpétuité. L'Éternel est grand et digne de recevoir toute louange. Sa grandeur est insondable. Que chaque génération célèbre tes œuvres et proclame ton extraordinaire façon d'agir. Je dirai la splendeur glorieuse de ta majesté. Je chanterai tes merveilles. Et je vous propose de commencer ce temps de louange avec un chant bien connu. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Et on peut se lever.
Je suis soif de ta présence, divin chef de ma foi, ton âme est si immense que voir.
Je chanterai tes merveilles. L'Éternel fait grâce, il est rempli de compassion. L'Éternel est bon envers tous. L'Éternel soutient tous ceux qui tombent. Il redresse tous ceux qui sont courbés. Tous regardent avec espoir vers toi. L'Éternel est juste dans toutes ses voies et bon dans toutes ses œuvres. L'Éternel est près de tous ceux qui font appel à lui. L'Éternel garde tous ceux qui l'aiment. Alors choisissons de lever les yeux ce matin vers le Seigneur, vers notre Père. Tournez nos cœurs vers celui qui est notre but et peut-être pas celui qui nous permet d'arriver au but. C'est une petite parole de Claude Becher que j'ai beaucoup aimée et qui me porte. C'est Dieu notre but, c'est pas un moyen d'arriver à nos buts. Donc ce matin qu'on puisse louer sa sainteté, qu'on puisse aller à ce but qui est Dieu. Dieu très saint. Parce que nous pouvons t'appeler notre Père, parce que tu es le Dieu saint, parce qu'entre le Dieu Père et le entre notre Père, notre Papa et le Dieu saint, tu mets tout ton amour. Seigneur, merci pour ta grandeur et merci pour ta proximité. Merci parce que c'est toi qui es notre objectif, toi qui es notre but. C'est toi que nous voulons adorer, Seigneur. Amen.
Non, je ne pourrai pas. Chaque instant, à chaque pas, et vivre entendre ta voix et que ma vie soit pour toi.
Chaque jour, à chaque instant, tant que je respire, j'aimerais te louer, Seigneur.
Voilà, je regarde s'il y a des enfants parmi nous. Nous sommes tous restés avec des cœurs d'enfants, ça c'est sûr, mais est-ce qu'il y a des plus jeunes? Parce qu'il est possible effectivement de rejoindre Nicolas Béroux. Nicolas, es-tu là? Je crois qu'il est... On m'a dit qu'il était là pour s'occuper des enfants ce matin, donc il est peut-être déjà en bas. Donc j'invite voilà, les enfants, les jeunes qui ont envie de descendre, de rejoindre Nicolas. Est-ce que quelqu'un peut les accompagner juste histoire d'être sûr qu'il est là? Alors, je ne sais pas. Merci bien. Voilà, nous aimerions, avant d'entendre Jean-Daniel Schneeberger, vous lire deux textes. J'invite volontiers, tu peux me rejoindre, Sylvie Barrel, pour la lecture.
Bonjour. Nous allons lire dans 1 Pierre 2, 4 à 6. Approchez-vous du Seigneur, la pierre vivante rejetée par les hommes, mais choisie et jugée précieuse par Dieu. Prenez place, vous aussi, comme des pierres vivantes dans la construction du temple spirituel. Vous y formerez un groupe de prêtres consacrés à Dieu. Vous lui offrirez des sacrifices spirituels qui lui seront agréables par Jésus-Christ. Car voici ce qui est dans l'Écriture. J'ai choisi une précieuse pierre que je vais placer comme pierre d'angle en Sion. Et celui qui lui fait confiance ne sera jamais déçu.
Nous lisons encore dans Romains 12, versets 1 à 8. Frères, puisque Dieu a ainsi manifesté sa bonté pour nous, je vous exhorte à vous offrir vous-même en sacrifice vivant, réservé à Dieu et qui lui est agréable. C'est là le véritable culte que vous lui devez. Ne vous conformez pas aux habitudes de ce monde, mais laissez Dieu vous transformer et vous donner une intelligence nouvelle. Vous pourrez alors discerner ce que Dieu veut, ce qui est bien, ce qui lui est agréable et ce qui est parfait. À cause du don que Dieu m'a accordé dans sa bonté, je le dis à vous tous, n'ayez pas une opinion de vous-même plus haute qu'il ne le faut. Ayez au contraire des pensées modestes, chacun selon la part de foi que Dieu lui a donnée. Nous avons un seul corps, mais avec plusieurs parties qui ont toutes des fonctions différentes.
De même, bien que nous soyons nombreux, nous formons un seul corps dans l'union avec le Christ, et nous sommes tous unis les uns aux autres comme les parties d'un même corps. Nous avons des dons différents à utiliser selon ce que Dieu a accordé gratuitement à chacun. Si l'un de nous a le don de transmettre des messages reçus de Dieu, il doit le faire selon la foi. Si un autre a le don de servir, qu'il serve. Celui qui a le don d'enseigner doit enseigner. Celui qui a le don d'encourager les autres doit les encourager. Que celui qui donne ses biens le fasse avec une entière générosité. Que celui qui dirige le fasse avec soin. Que celui qui aide les malheureux le fasse avec joie.
Jean-Daniel, je t'invite à me rejoindre et nous voulons encore prier. Nous te remercions, Seigneur, pour ta parole qui est vivante, qui nous touche encore aujourd'hui et nous voulons nous laisser toucher par ta parole. Permets-nous d'ouvrir nos cœurs à ce qui va nous être partagé maintenant par Jean-Daniel, que tu puisses le bénir et l'inspirer comme tu veux aussi nous bénir au travers de cette prédication. Béni sois-tu, Seigneur. Amen.
Ces cultes de l'été où nous pouvons nous rejoindre entre communautés protestantes sont des moments privilégiés. Je suis en tout cas heureux d'être parmi vous ce matin pour célébrer le Seigneur. Je vous remercie une fois encore pour votre accueil chaleureux et fraternel. À l'écoute de la première épître de Pierre, vous êtes peut-être frappé avec moi par une image pour le moins étrange. La pierre vivante. la pierre vivante. Un passionné des fossiles aura vite fait de vous montrer que la pierre n'a rien de très vivant. Même si elle accueille de très, très lointains souvenirs sous forme de plantes, de coquillages ou de crustacés, une pierre, c'est dur, c'est froid, c'est mort. Cependant, quand vous admirez un vieux pont ou un bel escalier en pierre qui a traversé les siècles, qui a permis à d'innombrables personnes de passer par-dessus une rivière, d'entrer dans une cité, de grimper jusqu'à un château ou vers le sommet d'un clocher, vous aurez envie de lui dire « Oui, la pierre, elle est quand même vivante. » Nous étions au début de ce mois en camp famille au sud de la France et nous avons été visiter deux lieux connus, Saint-Guilhem-le-Désert et les Baux-de-Provence. Ce qui est frappant dans ces deux lieux, c'est que tout est en pierre. Les murs, des maisons, des églises, des bâtiments administratifs, et puis même les rues sont en pierre. Et ces pierres, elles ont traversé presque un millénaire. Alors, en admirant de tels villages, on a vraiment envie de dire « ce sont des pierres vivantes, même si elles restent dures et solides au fil des ans qui passent. » La vie, c'est qu'on a taillé, façonné, sculpté les pierres, qu'on les a transportées, assemblées pour réaliser quelque chose de très beau. Pour permettre aussi quelque chose d'utile, pour aider les personnes à se rencontrer, à surmonter des obstacles, à atteindre certains buts, à rejoindre un lieu important et parfois aussi à admirer de beaux paysages. Vous l'avez entendu, l'apôtre Pierre prend donc cette image de la pierre vivante pour parler de Jésus-Christ et de chaque membre de la communauté chrétienne. Pourquoi utilise-t-il cette image si contrastée? Je crois qu'il nous indique qu'il y a à la fois quelque chose de solide dans la vie de chaque croyant, à la fois quelque chose de changeant, quelque chose qui évolue, qui se transforme, même si les apparences pourraient dire le contraire. Tout d'abord, la grâce et l'alliance du Seigneur sont solides, inébranlables. Dieu désire que nous soyons ses enfants, ses fils et ses filles. Il nous choisit, il s'attache à nous, il désire inspirer et guider notre vie, et cela tout au long de notre existence. Ce choix, cette volonté ferme de Dieu, cette attention et cet amour qu'il nous porte sont sûrs, fermes et éternels. Ils sont de pierre. Mais le Seigneur est aussi une pierre vivante. Il est le ressuscité, celui qui est source de vie. Il n'installe pas les chrétiens dans des chaises longues ou des fauteuils, il les met en mouvement. Alors demandons-nous ce matin, dans quel sens nous met-il en mouvement? Approchez-vous de Jésus-Christ, la pierre vivante. Pierre présente la foi comme un déplacement de chaque croyant à la rencontre du Seigneur. Mais en même temps, il nous montre que ce rapprochement provoque un autre rapprochement. Chaque pierre n'est plus séparée ou isolée, elle commence à faire partie d'un édifice de construction. Elle devient, pourrait-on dire, une pierre parmi beaucoup d'autres pierres qui vont former, qui sait, un escalier, un pont, un édifice, mais quoi qu'il en soit, quelque chose qui est inachevé. L'apôtre Pierre met donc en évidence un double déplacement, un déplacement individuel et un déplacement communautaire. Individuel d'abord. Chaque croyant, je l'ai déjà dit, est appelé à s'approcher du Christ. Je crois que ce mouvement est intérieur et profond. Il est provoqué par un réel attachement à la personne de Jésus. Nous trouvons en Jésus une solidité, une fidélité à toute épreuve, qu'aucune personne humaine ne peut offrir. Nous pouvons vraiment nous appuyer sur lui comme sur un rocher, nous reposer et nous fortifier en sa présence. Mais en relation avec lui, nous recevons aussi son esprit de vie. Son esprit qui vient ranimer ce qui en nous est figé et mort. Nous relever quand nous sommes tombés, nous encourager quand nous sommes démoralisés, nous donner de l'élan lorsque nous avons envie de baisser les bras, nous bousculer aussi quand nous cherchons à demeurer figés dans des routines ou des habitudes. Voilà le déplacement individuel, un Dieu qui vient nous ébranler dans toutes ces réalités intérieures et existentielles où nous sommes trop arrêtés, trop figés, trop repliés sur nous-mêmes. Mais le déplacement est aussi communautaire. Non, décidément, la vie chrétienne n'est jamais qu'une démarche individuelle. En nous approchant de Jésus, nous dit Pierre, nous allons être entraînés dans une construction commune. Ce que j'aime dans cette image, c'est qu'on parle ici d'un chantier. Vous l'avez compris, pour l'apôtre Pierre, l'Église ou la communauté chrétienne ne sont en tout cas pas des bâtiments où on a déjà déposé le sapin sur le toit pour dire « Voyez, c'est fini ». Non, l'Église est toujours un édifice en construction. La construction est inachevée, elle est toujours en devenir. Si nous comparons l'Église à un bâtiment, on pourrait dire qu'il y a des grues. Les fenêtres et les portes ne sont pas encore posées et les courants d'air sont partout dans le bâtiment. Pierre ne parle donc absolument pas d'une institution fermée ou figée. D'ailleurs, il présente cette construction comme un temple spirituel, un temple où l'Esprit de Dieu souffle, et vous savez que dans la Bible, l'Esprit, c'est toujours le souffle qui met des courants d'air un peu partout. Vous comprenez pourquoi maintenant je parle de courants d'air. L'Esprit Saint met de l'air dans la vie des croyants. Il les aide à mieux respirer ensemble, à en tirer de la force, du courage, du rayonnement, pour témoigner de la bonne nouvelle de l'Évangile. L'Église n'est donc pas pour Pierre un monde fermé, ancré dans des habitudes ou des routines. Les pierres qui la constituent sont vivantes, on peut comprendre, ouvertes, accueillantes, disposées à être transformées, façonnées, entre les mains du grand artisan qu'est le Seigneur. Eh bien, cette image communautaire, je crois qu'elle peut nous faire envie, même si elle n'est pas très confortable ou sécurisante. Aujourd'hui, dans le souvenir des bons héritages de la Réforme, je dois donc vous parler du sacerdoce universel. Derrière ces mots un peu compliqués, se cache quelque chose de très important. Harry l'a déjà signifié tout à l'heure. Le premier texte biblique que nous méditons le souligne à sa manière. À part Jésus-Christ qui est la pierre d'angle, il n'y a jamais de hiérarchie entre les autres pierres. Chacune à sa place dans la construction. Chacune est importante, même si elle n'occupe évidemment pas la même place. Chaque pierre a besoin des autres, et les autres ont aussi besoin d'elle. Mais Pierre va plus loin. Les chrétiens en tout temps et en tout lieu forment, dit-il, un peuple de prêtres. Chaque chrétien, chaque pierre à l'édifice est prêtre. Chaque chrétien sans exception. Et voilà ce qu'on appelle le sacerdoce universel. Vous le savez certainement, les réformateurs l'ont fortement remis en valeur, ce sacerdoce universel, à une époque où l'Église l'avait oublié en séparant le monde des clercs et le monde des laïcs, en considérant que seulement les clercs avaient le droit de célébrer, par exemple, la messe, les sacrements, comme le baptême ou la scène. D'ailleurs, c'est très frappant, dans certaines églises encore aujourd'hui, vous avez une grille qui sépare la nef du chœur, parce qu'à l'époque, les gens venaient au spectacle à la messe, voir les mêmes prêtres célébrer cette messe justement derrière cette grille. C'était comme deux mondes qui étaient totalement séparés. Alors Luther écrira par exemple, avec son côté un peu provocateur, si une petite troupe de pieux laïcs chrétiens est faite prisonnière et déportée dans un lieu désert, s'ils n'avaient pas près d'eux un prêtre consacré par un évêque, eh bien, ils choisiraient l'un d'eux, qu'il soit ou non marié, et lui confieraient la charge de baptiser, de célébrer la messe, d'absoudre et de prêcher. Celui-là serait vraiment un prêtre, comme si tous les évêques et tous les papes l'avaient consacré. On l'entend bien chez Luther, mais c'était vrai aussi pour les autres réformateurs. Le vrai culte n'est pas celui qui est célébré par un personnage particulier ou par un groupe de personnes. Non. Le vrai culte, c'est la vie de chaque chrétien, de chaque croyant. C'est notre vie qui est un culte. Cette vie qui a découvert le Christ, qui a reçu sa grâce et qui a placé sa vie entre ses mains. Notre vie tout entière est culte, avant tous les cultes que nous pouvons faire comme celui que nous célébrons ce matin. Et cela, l'apôtre Paul le dit dans cet autre passage de l'Épître aux Romains, que j'ai à cœur de vous proposer ce matin. Le vrai culte, dit Paul, est de vous offrir vous-même en sacrifice vivant. Une question se pose alors. Avons-nous besoin encore de pasteurs, de prêtres et de diacres? Nous sommes tous prêtres. Pourquoi alors en désigner plus certains que d'autres? Vous savez certainement que cette question a divisé les communautés protestantes et que certaines d'ailleurs ont choisi de renoncer à toute forme de ministère dans la vie de l'Église. Revenons aux réformateurs. Tout en défendant bec et ongles le sacerdoce universel, et on comprend aussi dans le contexte dans lequel ils étaient pour le souligner particulièrement, les temps ont bien changé, même dans l'Église catholique aujourd'hui. Tout en soulignant donc l'importance de ce sacerdoce universel, les réformateurs n'ont jamais remis en question l'importance et la valeur de ce qu'on appelle les ministères. Par exemple, dès 1520, dans le traité de la liberté chrétienne, Luther souligne qu'il n'entend pas supprimer les ministères. Il écrit, s'il est vrai, que nous sommes tous également prêtres. Nous ne pouvons cependant pas tous être chargés du service et de l'enseignement public. Si vous avez un problème d'électricité à la maison ou de sérieuses difficultés avec un écoulement, je crois, à moins que vous soyez un petit peu doué de vos mains et de vos connaissances, que vous ferez appel à une personne spécialisée, un électricien ou un plombier. En tout cas, c'est mon cas. Je n'irai pas trop tenté d'aller toucher trop les fils électriques, par exemple. Cela ne veut pas dire pour autant que vous n'allez pas faire le travail vous-même si vous avez le temps et les compétences. Mais il est pratique et utile de pouvoir compter sur des personnes qui, dans tel ou tel domaine, sauront ce qu'il faut faire. Pourquoi n'en serait-il pas ainsi dans la vie de l'Église ? Dieu, qui a créé la diversité, désire que nous puissions avoir besoin les uns des autres. Il se réjouit quand une personne dit à une autre « Cela, je ne sais pas faire. J'ai besoin de toi, de ton aide, de tes connaissances et de ton soutien. » D'ailleurs, ce qui me touche particulièrement de ce passage de l'Épître aux Romains que nous méditons, c'est la richesse des ministères. Paul la met vraiment en évidence. Nous sommes tous prêtres, oui, tous, mais nous avons chacune et chacun un ou plusieurs ministères différents. Écoutez la liste de Paul, je la répète, je la résume. Transmettre des messages reçus de Dieu, servir, enseigner, encourager, c'est un ministère, encourager, tout simplement encourager, partager ses biens, c'est un ministère pour vous de partager vos biens, diriger, les patrons se sont peut-être visés parmi nous ce matin, aider les malheureux, et puis bien sûr que cette liste, elle reste ouverte, elle n'est pas exhaustive. Alors je trouve que cette diversité, elle questionne profondément la vie de nos communautés protestantes. N'avons-nous pas l'impression qu'il y a d'un côté dans l'Église des personnes qui s'investissent à fond, qui sont un peu partout dans les organes de décision, qui ne s'économisent pas dans le déroulement des cultes, dans les rencontres ou les activités communautaires. D'un autre, des personnes qui sont là, mais un peu en retrait, qui suivent le mouvement, mais qui restent très réservées et discrètes dans leur implication communautaire. J'aimerais dire d'un côté, c'est un peu aussi cela, la diversité des ministères. Il y a des gens qui doivent être là, actifs, et plus actifs que les autres, et d'autres un peu moins. Ça n'est pas que négatif. Mais ce que Paul et Pierre nous rappellent ce matin, c'est que dans le chantier de la communauté chrétienne, il n'y a pas d'un côté des spécialistes et d'un autre des ouvriers ou des serviteurs. Chaque personne, chaque ouvrière et ouvrier a sa place et son importance. Chacune et chacun est prêtre et vous mesurez ainsi la responsabilité qui est donnée à chaque croyant. Le mot prêtre, il est quand même très fort. On pourrait dire que la communauté et son rayonnement, c'est l'affaire de tous. Chacun peut se dire ainsi, dans ma vie quotidienne, mon travail, ma famille, mes loisirs, mes relations humaines, je suis prêtre. Je suis appelé à manifester une appartenance à une famille spirituelle qui me porte et me soutient. Mais je dois aussi la porter et la soutenir. Les capacités et les dons qui me sont donnés peuvent être très différents. Certains seront doués en informatique, d'autres encore en musique, d'autres auront un ministère de visite ou d'accompagnement, d'autres auront la main verte ou des doigts très adroits au travail manuel. Réalisons-nous que nous sommes prêtres dans l'Église en usant de ses capacités et de ses dons que Dieu nous a donnés. Et pouvons-nous reconnaître aussi celui ou celle qui est à nos côtés, ce matin dans cette Église, comme pasteur et comme prêtre, au même titre que nous, dans une responsabilité différente que celui qui prêche, qui anime la louange en musique ou qui conduit la prière. Alors j'aimerais, au terme de ce message, vous inviter ce matin à un moment de prière. Nous nous trouvons dans nos vies communautaires face à des défis importants, particulièrement à l'heure actuelle. Je sais qu'un nouveau pasteur va débuter son ministère dans votre communauté. De notre côté, dans la région, nous allons au-devant de changements de postes pastoraux et diaconaux, et vous pouvez imaginer tout ce que cela peut provoquer comme bouleversement. Et puis, nous sommes confrontés, je ne sais pas si c'est aussi le cas chez vous, à de réelles difficultés pour vivre justement cette forme diversifiée du ministère dans l'Église, et particulièrement pour que de plus jeunes prennent des responsabilités. Et on me dit de plus en plus dans la société en général qu'aujourd'hui, un des grands problèmes, c'est que les responsabilités sociales hors de l'Église, eh bien, ne trouvent plus preneur parmi les jeunes, dans le monde sportif, dans le monde politique en particulier. Alors je crois que nous devons prier. Prier pour justement redécouvrir ensemble l'importance de la diversité des ministères, et surtout ce ministère commun qui nous est confié, nous sommes prêtres au service du Christ vivant. Je vous invite maintenant à ce temps de prière.
Seigneur, nous te disons merci parce que tu nous appelles à une vie qui porte du fruit. Et tu rajoutes même du fruit en abondance. Merci parce que tu nous qualifies aussi pour répondre à cet appel. Tu mets en nous des dispositions, des dons qui nous permettent de porter du fruit. Et je te demande, Seigneur, que nous puissions, comme quelqu'un l'a déjà dit, je crois, être attentifs, découvrir ces dons que tu places en nous et oser les mettre en valeur, en avant, pour le bien et le service de nos communautés, mais pour le monde aussi. Et cette vie en abondance, ce n'est pas uniquement, enfin, ces fruits en abondance ne sont pas uniquement des fruits pour notre vie individuelle, mais aussi des fruits collectifs. Tu veux que nos communautés portent un fruit en abondance. Et je te prie aussi pour toutes les communautés ici rassemblées, afin que tu bénisses chacun et chacune, membres de ces communautés, ainsi que les ministères que tu as donnés à ces communautés, afin qu'ensemble, nous puissions porter ce fruit, porter cet amour au monde, car ce monde a tant besoin de ton amour. Nous te bénissons, Seigneur. Amen. Je vous invite à vous lever. Nous voulons poursuivre et entrer dans un temps de sainte cène. Et nous allons chanter le numéro 203, « Quand j'ai vu tes mains, quand j'ai vu tes pieds ». pouvez reprendre place. Nous avons lu tout à l'heure le Seigneur dire « J'ai choisi une pierre précieuse que je vais placer comme pierre d'angle et celui qui lui fait confiance ne sera jamais déçu. » À ce choix du Père répond le choix du Fils. Je lis en Jean 15 « Voici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n'y a pour personne de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. » Au cœur de la mort et de la résurrection du Christ, dont nous allons faire mémoire en partageant le pain et le vin de la scène, il y a cette certitude, Jésus m'a choisi et son choix est irrévocable, même si moi-même je peux en douter ou mal me comporter. Quelle sécurité! Par le don de sa vie à la croix, Jésus nous sauve de nos péchés et nous invite à prendre place à sa table pour l'éternité. Quel privilège! Ce qui prime dans cette relation entre Jésus et moi, c'est le fait que Jésus s'est engagé vis-à-vis de moi. Son amour indéfectible à mon égard est premier. Et je peux désormais m'engager librement à le suivre et à aimer mon prochain. Quelle joie! Nous voulons lire l'institution. En Matthieu 26, nous lisons ceci. Au cours du repas, Jésus prit du pain, puis après avoir prononcé la prière des bénédictions, il le partagea en morceaux, puis les donna à ses disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Ensuite, il prit une coupe. Et après avoir remercié Dieu, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, ceci est mon corps, par lequel est scellée l'alliance. Il va être versé pour beaucoup d'hommes, afin que leurs péchés soient pardonnés. Je vous le déclare, désormais, je ne boirai plus de fruits de la vigne jusqu'au jour où je boirai le vin nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Ce repas de communion auquel nous sommes tous invités nous sort de notre isolement et nous unit en un même corps, dans une même foi, un même amour et une même espérance en Jésus-Christ, notre Maître et Sauveur. Prions.
Seigneur, renouvelle en nous ton Esprit Saint, afin qu'en partageant ce pain et en buvant à cette coupe, nous ayons communion au corps et au sang de ton Fils Jésus-Christ et communion les uns avec les autres. Merci pour ce repas qui nous renouvelle dans notre vie intérieure, dans notre confiance en toi. Merci de nous fortifier dans ta vie nouvelle, ô Christ. Amen. Amen.
Nous allons distribuer le pain et le vin dans les rangs, comme à notre habitude. J'aimerais inviter trois personnes à venir me donner et prêter main forte pour la distribution de cette scène. De ces coupes, des gobelets roses avec du jus de raisin et à l'extérieur du vin. Il y a aussi une coupe pour celles et ceux qui désirent prendre la coupe, veuillez simplement lever la main et je m'approcherai de vous. Je vous invite à prier la prière de notre Seigneur pour clore ce temps de Sainte-Cène. Je vous invite à vous lever pour ensemble dire le Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Donne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance, la gloire pour le siècle des siècles. Amen. Je vous invite à rester debout, nous allons procéder à l'offrande et nous avons l'habitude de le faire durant un chant. Ce chant qui dit « Libre de nos chaînes, nous pouvons aller librement pour servir notre Seigneur. » Je vais passer les sachets dans les rangs. Cette offrande sert pour les besoins de nos communautés. Ces offrandes de l'été sont partagées selon une clé de répartition convenue à l'avance entre la paroisse protestante et l'Église évangélique. Merci de votre générosité. C'est un ministère, un parmi d'autres. Merci de le vivre pleinement. Reconnaissant de pouvoir, dimanche après dimanche, vivre ce temps d'offrande, qui est aussi une manière pour nous d'exprimer notre liberté face à l'argent, parce que nous proclamons que tu es Seigneur de nos vies, que tu es celui qui répond à nos besoins, parce que tu es un Dieu généreux et bon, et que nous pouvons nous attendre à toi, même si, c'est vrai, nous ne sommes pas épargnés les uns et les autres par des temps difficiles, mais nous voulons te faire confiance et nous réjouir de ce que tu peux aussi faire fructifier cet argent afin qu'il serve ton royaume et l'avancement de ton règne. Amen. Je vous invite à vous rasseoir. Merci. Voilà, nous arrivons au terme de notre culte. Le temps de quelques annonces. On m'a dit qu'il y avait des diapos. Merci de les projeter, et elles arrivent. Voilà, au niveau de l'Église évangélique de Meyrin, quelques annonces pour commencer. Mercredi Mardi soir qui vient, ce n'est pas sur la diapo, il y a donc une réunion de prière comme à l'accoutumée pour ceux et celles qui désirent être présents. Et mercredi 18h30, le barbecue habituel ici sur le terrain pour vivre un temps de partage et de convivialité. C'est le 2 août, hein. Donc c'est la semaine suivante. Hein. Voilà, c'est ça. Merci. Voilà, dire encore que dimanche prochain, le culte aura lieu au CEPOM. Donc il n'y a pas de culte ici. Le culte en commun sera au CEPOM. Et pour un petit peu plus loin, dimanche 27 août, nous vivrons ce culte particulier et ce culte de reconnaissance pour le départ de Roger et Dominique Sowell. Pas reconnaissant du départ, on est reconnaissant de tout ce qu'ils ont de tout ce qu'ils ont donné dans leur ministère au milieu de nous toutes ces années, et nous voulons nous réjouir avec eux aussi pour la suite, parce que leur ministère continue. Donc on me demande de ne pas oublier de vous inscrire sur le tableau qui est à l'extérieur, au foyer, non seulement pour participer au repas, mais aussi pour participer aux différents services qui sont demandés. Il y a toute une mise en place à faire, et là, vos dons des uns et des autres sont les bienvenus. Tout est inscrit sur les feuilles, inscrivez-vous seulement, merci. Et encore un petit peu plus loin, au mois d'octobre, notre week-end d'église, il faut toujours que je lise pour savoir le nom, au chaud de Crotenay, voilà. On me dit qu'il y a effectivement des flyers qui sont disponibles. Vous les trouverez à la sortie de l'église. Donc, servez-vous seulement pour vous inscrire aussi à ce week-end. Voilà, je l'ai dit. Et je laisse encore Jean-Daniel nous donner une dernière information. Et puis, je te laisse peut-être venir ici comme ça pour la bénédiction. Tu seras directement en place. Merci.
Vous vous rappelez aussi que nous accueillons les Kids Games au Lignon, du 6 au 11 août. Je crois qu'il est encore possible d'inscrire des enfants, des jeunes. Et puis, ces mêmes Kids Games auront lieu aussi aux Évaux à Aunay, du 13 au 19 août. Nous voulons demander à Dieu sa bénédiction. Je vous invite à vous lever. Dans la longueur de son amour, Dieu nous précède et nous attend. Dans la largeur de son amour, Dieu nous accompagne et nous ouvre vers les autres. Dans la profondeur de son amour, Dieu nous garde et nous libère de toute anxiété. Dans la hauteur de son amour, Dieu nous inspire et nous bénit. Allons dans la lumière et dans la paix du Seigneur. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.